Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, une économie forte ne repose pas uniquement sur les richesses du sous-sol, mais avant tout sur la qualité de son capital humain. Propos du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, lors de l'ouverture de la deuxième édition du Salon de l'Hôpital, tenu récemment à Kinshasa. Ensuite, nous parlerons de la fin des consultations initiées par Raphaël Katebe Katoto. Satisfait après ces consultations, il affirme au cours d'une conférence de presse de garder la primeur de ses échanges avec les habitants de Lubumbashi au chef de l'État. L'invité de ce journal est Rachel Mouloulou et le point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Sa structure poursuit son plaidoyer en faveur d'une participation accrue des femmes aux mécanismes de coordination humanitaire et aux instances décisionnelles liées au processus de paix. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Ouverture de la deuxième édition du Salon de l'Hôpital dernièrement à Kinshasa. Occasion pour le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, de déclarer qu'une économie forte ne repose pas uniquement sur les richesses du sous-sol, mais avant tout sur la qualité de son capital humain. Et la longévité et la bonne santé de la population représentent aujourd'hui des indicateurs déterminants pour les investisseurs internationaux. Daniel Moukoko Samba est intervenu sur les thèmes dividendes démographiques et financement durable de la couverture santé universelle au cours de ce forum organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Les propos du vice-premier ministre de l'économie nationale sont recueillis par Radio Okapi.
La prospérité durable de la République démocratique du Congo ne dépendra pas uniquement de l'abondance de ses ressources naturelles, mais de la qualité de son capital humain. C'est pourquoi je voudrais lancer aujourd'hui un appel à la construction d'un pacte national pour le capital humain, la longévité et la souveraineté économique. C'est un pacte fondé sur une conviction simple. Chaque ministère, chaque institution publique, chaque entreprise, chaque université, chaque organisation de la société civile et chaque citoyen ont un rôle à jouer dans la valorisation du capital humain de notre pays. Le ministère de la Santé ne peut à lui seul porter cette ambition. L'histoire retiendra que notre génération aura eu à faire un choix, celui de continuer à considérer la santé comme un coût ou celui de reconnaître qu'elle constitue l'investissement le plus rentable que puisse réaliser une nation. Je suis convaincu que la République démocratique du Congo fera le bon choix.
Puisque nous parlons santé, notez que la lutte contre Ebola ne se joue plus seulement dans les centres de santé en Ituri. Après avoir renforcé les capacités logistiques de la riposte, la MONUSCO mise désormais sur l'engagement de communautés pour freiner la propagation de l'épidémie. Un projet a été lancé jeudi à Miala, dans les territoires de Djougou. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
Après les ambulances, les véhicules tout-terrain et les motos remis à l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir la riposte contre Ebola, la MONUSCO, à travers sa section de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, ouvre un nouveau front, celui de l'engagement communautaire. Mise en œuvre par les organisations locales Hope for Peace and Development et les réseaux des associations pour le développement durable, ce projet vise à renforcer la confiance des populations, combattre les rumeurs et la désinformation, tout en impliquant les bénéficiaires du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation comme relais communautaire. Les activités ont été lancées jeudi à Miela, dans la périphérie de Bounia, avec une session de renforcement des capacités réunissant leaders communautaires, religieux, coutumiers, femmes et jeunes. Le projet sera également déployé à Balingina, à Sota et à Chomia, dans les territoires de Djougou et d'Irumu, et près d'une centaine de bénéficiaires seront formés, tandis que plus de 20 000 personnes seront sensibilisées à travers des dialogues communautaires, des émissions de radio et un mécanisme de suivi des rumeurs. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
À Lubumbashi, Raphaël Kabtebe Katoto tire un bilan positif des consultations qu'il vient de mener auprès de la population. Le notable de Grand Katanga a clôturé samedi cette série de rencontres destinées à recueillir les préoccupations des habitants. Au cours d'une conférence de presse, il a indiqué que les conclusions de ces échanges seront d'abord soumises au chef de l'État. S'il estime avoir cerné les principaux défis auxquels fait face la communauté, il insiste toutefois sur le caractère non politique de cette démarche. Les explications de Raphaël Katebe Katoto, recueillies par Paul Mounanga.
J'ai écouté toutes les formations culturelles, sociales, donc j'ai écouté tout le monde. Et ça m'a permis de cerner les vrais problèmes de la communauté. Ma démarche, c'était d'aller jusqu'au fond pour mieux comprendre les problèmes de la communauté. Et les problèmes de la communauté, c'est son quotidien, la sécurité, la cohabitation. Donc les trois points importants. Aujourd'hui, changement de la constitution, ce n'est pas encore d'actualité et je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour la communauté, pour aller toucher, palper les vrais problèmes de la communauté. Son quotidien, c'est ça qui m'intéresse. Je suis très satisfait parce que les enfants du Katanga m'ont parlé à cœur ouvert. Ils se sont confiés à un des leurs. Ils ont parlé librement et franchement. J'ai les doléances, j'ai les mémos présentés par les composantes et que je présenterai au chef de l'État à qui je réserve la primeur. Quelles sont les solutions qu'il trouvera? Parce que c'est lui le chef de la nation, c'est lui qui décide.
Par ailleurs, le Haut-Katanga dispose désormais d'un nouveau palais de justice. Cette imposante infrastructure a été inaugurée samedi à Lubumbashi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Construit sur fonds propres du gouvernement provincial, l'édifice moderne est de deux niveaux, comprend notamment des bureaux administratifs, des salles d'audience, un système de vidéosurveillance ainsi qu'un dispositif anti-incendie. Il accueillera plusieurs juridictions dont la Cour d'appel, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce et le tribunal pour enfants. Un ouvrage présenté comme un pas important dans le renforcement de l'appareil judiciaire dans la province. Nous ne quittons pas les Grands Katanga car la synergie de la société civile de Kisamfu dans le Lualaba exprime son indignation. Elle s'est dit être écartée dans la désignation des animateurs de l'organisme chargé de la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Cet argent de la dotation qui sert à financer des projets de développement communautaire en faveur des populations locales. Dans une déclaration ce samedi à Radio Capi, la société civile demande l'annulation du processus de désignation des animateurs de cette dotation au sein des quatre entreprises minières. Explication avec Paulin Mounanga.
Une délégation du ministère des Mines venue de Kinshasa a procédé à la désignation des animateurs chargés de gérer la dot de 0,3% au sein des entreprises minières, CEMOC KFM, l'Amicale, Kimine et MKM. C'était en présence du chef de groupement Ngouba. Cependant, parmi ces animateurs, aucun membre de la société civile. Elle s'est dit indignée du fait qu'elle n'a été ni associée ni invitée à ces processus. Le quota des organisations communautaires de base OCB au sein de l'organisme spécialisé chargé de la gestion de la dotation n'a pas été respecté. La société civile dénonce ces irrégularités et demande l'annulation du processus de désignation des animateurs de la dot. Un activiste de la société civile de Kisamfu s'exprime.
On a rejeté la société civile et pourtant les OCB, les organisations communautaires de base sont autonomes. Nous demandons avec toute humilité au ministre national des Mines et la délégation qu'il a envoyée l'annulation du quota des OCB, les organisations communautaires de base.
Nous n'avons pas pu joindre les chefs de groupement Ngouba ni les membres de la délégation du ministère des Mines venus de Kinshasa. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Nous n'avons pu joindre les chefs de groupement Ngouba ni les membres de la délégation du ministère des Mines venus de Kinshasa. Retour à Kinshasa, Alimété, la colère gronde chez les habitants de la 18e rue. La tension était vive samedi à la suite d'une nouvelle opération de démolition menée dans cette commune de la capitale. Sur place, plusieurs riverains dénoncent une intervention qu'ils jugent excessive. Ils affirment avoir déjà respecté les limites fixées lors des précédentes démolitions, notamment l'emprise des 15 mètres exigés par les autorités. Face à la poursuite des destructions, ils disent ne plus comprendre les motivations de cette opération. Les habitants accusent notamment le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, de faire démolir des habitations au-delà du périmètre initialement prévu. Dans ce climat d'incompréhension, les riverains appellent les autorités provinciales à clarifier les contours et les limites de cette décision. Témoignage d'une victime recueillie par Ella Chembalo.
Le ministre Léon Moulumba est venu ici accompagné de la police militaire pour nous menacer. Lors de sa première descente, leur mission a échoué et ils sont repartis. Ils sont revenus une deuxième fois avec des policiers et un colonel, déterminés à tout casser. Aujourd'hui, ils sont revenus pour la troisième fois, toujours accompagnés des policiers. Il nous a demandé de lui remettre de l'argent ainsi qu'une livrée parcellaire, en promettant de partir avec ses documents les lundis pour nous les restituer les mardis. Nous avons refusé. Il nous a alors averti qu'il reviendrait tout démolir. Pourtant, le président avait déjà indiqué les 15 mètres à libérer. Cette partie-là a été déjà démolie. Cette fois-ci, il est entré dans nos avenues et s'en est pris aux habitations des riverains. Je ne comprends pas ce qu'il cherche réellement. Lorsque les jeunes se sont mis en colère, les policiers qui l'accompagnaient ont tiré 9 coups de balle. Heureusement, tout le monde a pris la fuite. Sinon, l'un d'entre eux aurait pu être tué.
Contacté par Radio Capi, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, a déclaré se prononcer sur cette situation mercredi prochain. Autre actualité dans les Kasaï, les recherches se poursuivent pour retrouver une cinquantaine de détenus évadés de la prison de Luebo. Ces prisonniers se sont échappés dans la nuit de jeudi à vendredi dans cette maison carcérale. Une évasion confirmée par l'administrateur du territoire de Luebo, Jean Chauke Wachauke. Celui-ci parle d'une opération soigneusement préparée avec la complicité présumée de certains agents des services de sécurité. L'autorité territoriale s'est dit particulièrement préoccupée par la fuite des détenus considérés comme dangereux, craignant une recrudescence de l'insécurité dans la région. Face à cette situation, il appelle les services de l'État à intensifier les recherches afin de localiser ces fugitifs, les interpeller et les remettre à la disposition de la justice. Jean Chauke Wachauke est joint au téléphone par Blaise Ndongala Mayanda.
Aucun prisonnier n'y s'y trouve dans l'enceinte de la prison. Nous sommes dans l'insécurité, et puisque voire même les gardiens de la prison sont partis, il y a 3 armes qui est emportées et les prisonniers sont sortis dans des portes étroites de la prison. Les cadenas n'étaient pas ouverts. En fait, on a seulement détruit la porte ainsi que tout autre matériel qui aide à mieux sécuriser la fuite ou l'évasion des prisonniers. Ils sont tous partis et nous regrettons ce qui s'est passé dans cette prison. C'est au peuple de Luebo de pouvoir nous aider, de pouvoir aider l'État là où ils verront un prisonnier, de pouvoir l'arrêter afin de le faire retourner dans la prison pour que la justice fasse un peu son travail, puisque le procureur ne saura pas sur quel pied il va danser.
L'actualité est aussi marquée par la célébration de la journée du 1er août, observée samedi à travers le pays en mémoire des parents et des proches disparus. À Bandundouville, cette commémoration a également remis en lumière la question de la préservation des lieux de mémoire. Une organisation de la société civile dénonce en effet la spoliation de l'ancien cimetière d'Ingamilele, considéré comme un site historique de la ville. Elle appelle les autorités à prendre des mesures pour protéger cet espace et annonce avoir déjà entrepris des démarches en vue de son classement et de sa sauvegarde. Les détails dans ce reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement, rendu par Gloriane Lepea.
Célébration de la journée consacrée au souvenir des parents et des personnes décédées, l'Association pour la défense des intérêts de la ville de Bandundu dénonce ce qu'elle qualifie de spoliation dans l'ancien cimetière de Ngamilele situé au quartier Maza dans la ville de Bandundu. Au cours d'un point de presse, les présidents de cette structure citoyenne affirment que plusieurs portions de cet ancien site funéraire auraient été attribuées à des privés par certaines autorités provinciales. Selon lui, cet espace chargé d'histoire et des mémoires collectives devrait être préservé.
Nous mettons en garde toute personne qui viendra ou toute autorité de la ville ou de la province qui mettra sa patte ici pour prendre un morceau du terrain ici de la cimetière Ngamilele. Nous constatons que les autorités sont venues pour accaparer ce terrain. Nous demandons au chef de l'État et au Premier ministre de chercher comment s'impliquer à ce dossier.
L'Association pour la défense des intérêts de la ville des Bandundu annonce par ailleurs le lancement prochain d'une série de démarches citoyennes et administratives afin de faire entendre sa voix et d'obtenir la protection de l'ancien cimetière de Ngamilele. Il convient de préciser que les autorités provinciales mises en cause n'ont pas encore réagi à ces allégations.
Actualité internationale.
La justice marocaine a accepté vendredi 31 juillet 2026 la demande de mise en liberté provisoire du rappeur marocain El Mahdi Lioubi, connu sous le nom de scène Mehdi Blackwind. Il était incarcéré depuis 3 semaines, poursuivi pour atteinte aux institutions. L'artiste connu pour ses prises de position critiques sur la société marocaine ne sait pas encore s'il va pouvoir quitter le pays et rejoindre le sud de la France où il est installé depuis 10 ans maintenant.
L'invité.
Honor Kivu, la synergie des femmes pour la paix et la sécurité intensifie son plaidoyer en faveur d'une grande implication des femmes dans les mécanismes de coordination humanitaire et les instances des décisions liées au processus de paix. Cette question a notamment été au centre d'un atelier organisé le 30 juillet dernier à Goma. La rencontre a réuni les organisations féminines, membres de la Synergie, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, ainsi que la section genre de la MONUSCO. L'objectif, renforcer la participation des femmes dans les espaces où se prennent les décisions touchant à la paix, à la sécurité et à l'action humanitaire. Pour en parler, nous recevons Madame Rachel Mouloulou, point focal de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité au Nord Kivu. Dans cet entretien accordé à Bernadette Nyangui, elle revient sur les principaux enjeux de ce plaidoyer.
Rachel Mouloulou, bonjour.
Bonjour papa journaliste.
Ce plaidoyer, c'est autour de quoi exactement?
La synergie des femmes paix et sécurité est en train d'organiser les activités de plaidoyer sur la participation de la femme dans la recherche de la paix et la sécurité. Le constat est que le taux de la participation de la femme est trop bas. Alors, nous avions fait le plaidoyer auprès de OCHA, puisque même dans la coordination humanitaire, il y a très peu de femmes, tout au plus 30% de femmes qui participent au niveau de la coordination humanitaire, oui, au niveau national et au niveau provincial. Maintenant, il y a des conséquences pendant la distribution sur terrain pour la prise en charge des déplacés de guerre, la prise en charge des retournés de guerre des personnes vulnérables, et il n'y a pas assez d'explications par rapport à la redevabilité. C'est pourquoi les femmes de la Synergie s'étaient dirigées vers OCHA pour demander comment fonctionnent les différents mécanismes. Pour la journée maintenant du 30, pour nous c'est une réussite, ce sont les résultats du plaidoyer, puisqu'il faudrait une journée d'atelier plaidoyer pour nous expliquer comment fonctionne la coordination humanitaire, comment fonctionne la coordination au niveau provincial. Les clusters, est-ce qu'il y a les femmes? Est-ce qu'il y a la participation des femmes? Comment se fait même la répartition des financements, puisque les femmes sont à la première ligne toujours, mais avec insuffisance des moyens. Pour nous, nous avons vu qu'il y a encore beaucoup à faire, puisqu'il y a des stratégies qu'on devrait aussi réglementer pour que la femme puisse mieux participer, au moins à 80%. Même pour participer dans des clusters, il faudrait expliquer aussi ces mécanismes, et la femme continue à dire que la participation de la femme est encore minime. Nous avons remis la note encore une fois de plaidoyer aux responsables de OCHA. Nous avons remis et même la lettre aussi de remerciement, puisque le fait de continuer à plaider et arriver au niveau des résultats, pour nous, c'est une réussite.
C'est depuis quelques mois que vous avez émis ces notes-là de plaidoyer. Donc, vous estimez que ça n'avance pas vraiment par rapport aux réponses.
Oui, ce plaidoyer, nous l'avions commencé même depuis l'année passée. et ça n'avance pas puisqu'il n'y a pas augmentation des femmes dans ce mécanisme, quoi.
Alors, est-ce que à travers cet atelier plaidoyer, il y a eu quand même quelques recommandations importantes?
Il y a eu plusieurs recommandations et la principale est que nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine pour échanger, vulgariser aussi la feuille de route, puisque la conclusion c'était les recommandations qu'on venait de dire, c'était l'engagement des femmes, c'était aussi la proposition de la feuille de route. C'était là la conclusion. Et cette feuille de route, nous allons la vulgariser maintenant la semaine prochaine et nous allons partager à tout le monde et les plans stratégiques de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Nous allons aussi les partager, les plans stratégique pour que ces différents mécanismes puissent s'en approprier et renforcer aussi la participation et la proximité avec les organisations des femmes. Il y a aussi l'autre résultat très important au niveau de la MONUSCO, puisque nous avions fait aussi un plaidoyer au niveau de la MONUSCO. Parmi les recommandations et résultats est qu'il y aura un cadre de concertation de toutes les femmes et on se réunira chaque mois pour comprendre comment se passent les informations fiables, pas rester seulement au niveau des réseaux sociaux, au niveau des rumeurs, donc échanger par rapport aux différentes informations qui cadrent avec la participation de la femme dans la recherche de la paix et la sécurité. Et on fera des assises au moins chaque mois.
À quoi est-ce que vous pensez que cela pourrait aider les femmes? Si une fois vous êtes répondu par rapport à cette demande-là et que les femmes se retrouvent représentées,
il y aura beaucoup d'impact puisque vous ne pouvez pas parler de mes besoins, moi femme, sans moi. Donc c'est la femme qui connaît mieux les besoins des autres femmes. Il y a les femmes qui continuent même à réclamer. Il y a les femmes pygmées. Il y a les femmes vivant avec handicap. Les besoins de toutes ces femmes, ce sont des besoins spécifiques. Si la femme, elle est là, partout dans ces mécanismes, la femme mettra l'accent sur les besoins spécifiques de chaque catégorie de femmes. Alors la participation de la femme est très importante dans tous ces mécanismes.
Madame Rachel Mouloulou, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Rachel Mouloulou et les points focaux de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité et s'entretenait avec Bernadette Nyangui. Et c'est ce qui met fin à ce journal parlé du matin, coordonné par Jean-Désiré Kanyama et supervisé par Lévin Mbouinga. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Place à présent aux informations sportives avec celui qu'on appelle affectueusement le bulldozer. J'ai cité Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ses studios. Bonjour Blaise.